l'université de Wuhan en Chine et qui va, par un autre biais, nous permettre d'entrer. Il a intitulé son intervention « La pensée de François Julien comme outil conceptuel dans l'interculturel ». Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer mon intervention, alors parce que tout à l'heure on a parlé aussi de Foucault et de cette classification bizarre de l'encyclopédie chinoise, là justement ça me rappelle quelque chose. En étudiant cette introduction de Foucault, j'ai essayé aussi de rappeler à mes élèves tous les paradoxes qui existent chez les Grecs. Et c'est à ce moment-là, alors quand on a rencontré le paradoxe d'Achille et de Tortue, et puis ou bien le paradoxe d'Achille et sa flèche, à ce moment-là, nos élèves, les Chinois, ne comprennent point du tout. Comment on peut imaginer ça? C'est-à-dire la flèche, c'est toujours en mouvement, et puis certainement Achille rattrape ou dépasse la tortue. Alors, pour un Chinois, on ne peut pas voir, on arrive là, arbitrairement, à localiser quelque chose, de le considérer comme fixe, immobile, c'est impossible. Et voilà toute l'histoire que François Junet a très bien mentionnée, bien sûr. Avec ça, on peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, en parlant de la physique moderne, vous avez aussi deux aspects, c'est-à-dire ondulation et granulaire. Granulation, on dit comme ça?
Corpusculaire,
merci. Alors, on constate en réalité, alors, est-ce que c'est les Grecs ou bien les Français, vous avez raison, ou bien est-ce que les Chinois ont raison? C'est pas vrai, peut-être, les deux aspects, je dirais pas, se complètent, mais chaque fois, quand on choisit une méthode, une façon de voir la chose, on perd certainement quelque chose. Et on gagne, bien sûr. Alors, je reviens à ce que je veux dire dans cette invention. En réalité, je ne fais pas de la métaphysique, je veux faire quelque chose de très concret. Je suis chinois. C'était au cours du dernier colloque qu'on a organisé à notre université, l'université de Wuhan, qui se trouve au centre de la Chine. Alors, un colloque sur le management sino-français. Alors là, on a vraiment une discussion très vive sur le concept du contrat. Beaucoup d'entrepreneurs français protestent beaucoup en disant que les Chinois sont comme ça, ils ne respectent pas le contrat, et puis parfois, au déroulement de l'exécution du contrat, alors ils sont trop exigeants. Alors, par hasardement, en lisant François Junet, je me dis qu'en réalité, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais c'est après le colloque, je réfléchis. En lisant François Junet, je me dis que même je n'ai pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le contrat pour un Chinois. Il suffit de mettre certains paragraphes que j'ai choisi, c'est François Junet, et puis tout devient explicite. Bien sûr, avant de dire ça, il faut aller encore un peu plus loin, comme François Junet a mentionné, c'est-à-dire ce qui se trouve en amont de cette divergence. Alors, il s'agit bien sûr notre rapport au texte. Les Chinois et les Français n'ont pas le même rapport au texte. En réalité, le concept du contrat chez vous, alors vous avez le concept, vous avez déjà pacte entre Dieu et les Hébreux. Et puis dans votre histoire, vous avez toujours le contrat qui lie les sujets aux suzerains. Et puis encore aujourd'hui, nous savons très bien quelle est l'importance de la constitution pour un État. Et pour tous ceux qui ont vécu en Chine, vous saviez très bien que la constitution chinoise a changé plusieurs fois, et puis dans lequel on pourrait mettre n'importe quoi. Et d'ailleurs, on ne respecte pas. Alors ça veut dire le contrat pour nous, c'est-à-dire notre rapport avec le test, c'est tout à fait différent. Un avocat chinois qui a travaillé au Canada, qui a fait ses études, c'est un docteur de la loi, bien sûr, alors de droit, et puis il est de retour, il a ouvert un cabinet. Un jour, il me raconte, pour faire un contrat, bizarrement, un Américain ou bien un Anglais pour une même affaire, de la même taille. Alors, pour un Américain ou bien un Anglais, il faut à peu près une centaine de pages, une épaisseur comme ça. Mais pour un Français, généralement, c'est entre vingtaine et 80. Et pour un Chinois, c'est 4 pages. Je lis François Runet. Nous dressons une forme idéale que nous posons comme but et nous agissons ensuite pour la faire passer dans les faits. Tout cela irait de soi, but, idéal et volonté, les yeux fixés sur le modèle que nous avons conçu et nous projetons sur le monde dont nous faisons un plan à exécuter. Et nous choisissons d'intervenir dans le monde et de donner forme à la réalité. Et plus, dans notre action, nous savons rester proches de cette forme idéale, plus nous aurons de chances d'y réussir. Mais pas contre les Chinois ni croqueurs, en quelque sorte. Ils ne croient pas à cette idée que le texte pourrait être une réalité. Il y a là certainement deux rapports au texte. En Occitan, alors, votre contrat constitue toujours un modèle qui serve de norme aux actions politiques ou économiques, une forme du discours qui soit à la fois apte et légitime à rendre compte du devoir être ou bien devoir faire dans une coopération, parce que c'est le cas de la coopération. Excusez-moi. Et parce que chez vous déjà, alors la parole joue un rôle tellement important, Dieu dit il y a de la lumière, bon, que la lumière soit, c'est dire, c'est faire. Et puis ensuite, dans votre philosophie, après Aristote, puis vous avez saint Thomas d'Aquin, qui considère la conformité de la pensée et à la chose, c'est comme quelque chose de fondamental, c'est ça la vérité, c'est-à-dire l'énoncé doit exprimer la conformité d'une idée avec son objet, celle d'un récit avec un fait, ou de la parole avec la pensée. Tandis que les Chinois cultivent tout à fait un autre rapport avec la parole ou bien avec le texte. Je ne sais pas si vous avez entendu une formule habituelle en chinois. Je dis d'abord en chinois, on dit « yi li wen zi, wan shi jie xiu ». Ça veut dire « ce qui est dit » ou bien « ce qui est écrit n'est plus ». Ainsi que le parti pris de l'être appelle à la détermination, je lis François Runet, le site, excusez-moi. Ainsi que le parti pris de l'être appelle à la détermination, se capitulera en cette maxime qui a si longtemps quitté en sous-main le travail de la pensée. En Europe, qu'elle en passe inaperçue, je la formulerai de bois. Plus cela est déterminé, plus cela est. C'est chez vous. Un langage d'origine divine apte à exprimer la vérité du monde n'existe pas dans notre pensée. Chaque fois qu'on lui pose la question sur piété filiale, je parle de Confucius, et François Junier a aussi relevé ce morceau, sur la piété filiale, chaque fois Confucius répond différemment, puisque ce n'est plus le même moment, ni le même lieu, et ce n'est plus la même personne qui demande. Les lettrés chinois connaissent tous, presque tous, cette anecdote bouddhique. Je lis, le Bouddha ne prononça aucune parole et se contenta d'exhiber une fleur. Personne ne comprit. Seul Marakashiyapa sourit. Nombreuses sont les histoires du Zen qui se dépouillent des paroles et des écritures pour aller tout droit vers la lumière. Le doigt de Hao Tai qui montre la lune ou bien la pousse de Kutai, etc. Les mots sont impuissants et en appuyant quelque chose d'une expression langagière, on la transforme et déforme. Même les phrases les mieux tournées nous détournent. Et dans un autre sutra, on explique encore, quand on commence à écrire de belles phrases, croire pouvoir rendre la vérité par les mots, on perdra déjà la lumière et l'essence. Et c'est l'un des signes de la dégénérescence de l'enseignement de Bouddha. Il semble que le test, en produisant un sens, le dégénère. Inévitablement. Bien sûr, on peut s'y livrer à une étude plus fine qui aboutisse peut-être à la conclusion suivante en disant que les caractères ou les clés des caractères sont sacrés, non la parole et l'écrit qui s'en composent. Un autre copain qui fait aussi des recherches sociologiques en Chine, qui s'appelle Bernard Fernandez, a dit que pour les Chinois, le contrat ne sert que de mémorandum. Sa signature n'est qu'un point de départ d'une coopération. Un homme d'affaires chinois prétend que si la coopération va bien, on ne regarde plus le contrat. Seulement au cas où la coopération ne marche pas bien, il y aura des problèmes et peut-être on risque la rupture. À ce moment-là, on revient l'examiner de près le contrat. Bien sûr, à ce moment-là, c'est le désaccord, la dispute qui amène, comme je prends le terme de François Julien, c'est la propension qui se manifeste, qui amène absolument à la rupture. Comme l'homme se trouve toujours dans la situation des choses, on doit évoluer avec la situation, réagir aux sollicitations à chaque circonstance. La transmission d'une vérité n'a rien à voir avec l'écriture. La grande voix est sans parole, mais parfois on n'a pas d'autre moyen que de recourir à la parole pour la transmettre. Mais la parole reste dans notre tête ou bien dans notre inconscient, toujours pâle ou ingrate. Cette conception chinoise se manifeste aussi dans leur façon de définir. Dans nos textes classiques, il est difficile de trouver des définitions bien précises. Même aujourd'hui, dans un article académique des Chinois, s'il n'a pas une formation occidentale assez solide, les Chinois oublient toujours de définir clairement leurs idées qu'ils discutent ou bien qu'ils posent comme postulat. Cela entraîne souvent la discussion à tourner autour du pot, bien sûr. On utilise le même mot, mais on ne parle pas de la même chose. On dira que la langue chinoise n'est pas faite pour la définition. Vous savez que Granet va jusqu'à prétendre que la langue chinoise ne fait pas de catégorisation. Il serait intéressant de rappeler ce que François Julien a prononcé à propos de l'antre. L'antre est par conséquent ce qui se dérobe à la prise du discours sur l'être, autrement dit l'ontologie. Modélisée par l'écriture idéographique, c'est notre ressource, la pensée chinoise préfère la métaphore à l'abstraction. Et en réalité, beaucoup de Chinois qui sont venus en France ou bien en Europe, aux États-Unis, ils n'ont jamais vraiment très bien compris. Certainement, on a beaucoup réfléchi sur votre esprit analytique, mais ils n'ont jamais très bien compris quel rôle joue l'abstraction dans votre travail académique. Alors, nous estimons qu'un concept bien défini s'éloigne immédiatement du réel. La langue chinoise se contente pour illustrer une idée, un concept, de donner une série d'exemples concrets. Dans plusieurs conférences linguistiques qui ont lieu en Chine, j'ai entendu souvent des critiques adressées contre le concept de saussure, l'arbitreur, et cela montre en réalité par intuition, nous les Chinois, nous avons du mal à accepter ce concept, l'arbitreur, et nous disons toujours que notre idéogramme ne sont pas sans motivation. En réalité, là, il y a une sorte d'immanence, rapport immanent. Chaque idéogramme en lui-même est une métaphore et une métonymie. La ressemblance et la continuité constituent à elles seules une motivation. Donc, c'est du sensible et non du définissable. Car elle est à l'aise pour donner à entendre, comme à l'infinitif, je cite, l'indéfini processivité des choses faisant sourdement son chemin dans, je cite François Lumière. Tout cela devient inconscient dans notre tête. À titre d'exemple, une fois, dans une conférence infolinguistique, alors j'ai rencontré aussi un physicien chinois que moi je respecte beaucoup, très savant. Et quand on parle de la terminologie, de la théorie de la terminologie, il m'a répondu carrément que la terminologie, ça ne sert à rien. C'est vraiment dans l'inconscient. Mais en pensant au concept élaboré par lui, à c'est-à-dire François Julien, nous constatons qu'en réalité, là, la langue, je ne peux pas dire que la langue est déterminante, mais les caractères chinois, à cause de son image, ont toujours une grande influence sur notre façon de voir la chose. Pourquoi les Chinois... Ah non, je m'explique. Là, j'ai... Bon, je passe. Il faut avouer que les Chinois s'efforcent aujourd'hui à s'adapter au concept du contrat parce que c'était là le principe du marché économique. Alors si on ne respecte pas le contrat, ça ne marche plus, on ne peut pas négocier avec vous les Européens. Ils respectent, ils essaient de s'adapter au concept du contrat. Mais il s'agit moins d'appliquer un plan à la pratique que de naviguer ou de se débrouiller dans un plan prêt à être modifié et entre un plan prêt à être modifié et un déroulement de situation. Je cite François Julien. La stratégie chinoise, dit François Julien, est de prendre appui sur le potentiel inscrit dans la situation pour se laisser porter par lui au cours de son évolution. Se trouve d'emblée exclue l'idée de prédéterminer le cours des événements en fonction d'un plan qu'on aurait dressé d'avance, comme idéal à réaliser et qui serait plus ou moins définitivement arrêté. Les hommes d'affaires chinois se gardent de projeter sur le déroulement à venir un devoir être figé. Plus le projet est précis, plus ils s'en méfient. La situation est changeante, prétendre tout prévenir comme les Anglais, ce n'est qu'une illusion destinée par avance aux échecs. Puisque seul celui qui entend réagir correctement aux changements circonstanciels peut s'en sortir avec succès. Car, je cite François Julien, car la pensée chinoise n'a pas construit un monde de forme idéale comme archétype ou pure essence à séparer de la réalité et qui puisse l'informer. Tout réel se présente à elle comme un procès régulé et continu, découlant de la seule interaction des facteurs en jeu. Un entrepreneur chinois me confie que pour le succès d'une coopération, il faut envisager au moins trois facteurs. C'est la compétence, la motivation et la bonne volonté. Je ne sais pas si je dis la bonne volonté est correcte en français ou non. C'est-à-dire vraiment, on a un esprit coopératif, on est crédible. Autrement dit, est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on est coopératif ou crédible ? Pour les connaître, il faut du contact le long du déroulement de l'affaire. Attendre la fin du contrat, c'est trop risqué. La date de son expiration, où on n'est plus disponible, on ne respire plus, ça coûte trop cher. Alors au cours de la réalisation du contrat, les deux partenaires ne cessent de se tâter, de se sympathiser et de s'arranger afin de trouver une meilleure formule conforme à leur capacité en faveur de l'intérêt commun. Tout cela se passe non avant la signature du contrat, mais c'est pendant, c'est-à-dire au cours de l'accomplissement du contrat. Je lis François Julien. Le propre de l'encre, c'est que ne donnant pas lieu à focalisation, à fixation. C'est de sentir des choses extrêmement fines et complexes dans leur articulation. À titre d'exemple, en fonction du contrat, un partenaire doit... Je cite un exemple concret. C'est-à-dire, en fonction du contrat, un partenaire doit placer à telle ou telle date une somme d'argent dans un compte bancaire désigné, mais par hasard, il se trouve en difficulté. Et comme on n'a pas besoin tout de suite de cette somme, alors celui-ci préfère remettre au plus tard cette opération. Pour un entrepreneur français, alors spontanément, il va dire non. Parce que respecter le contrat, c'est le principe. Pour un Chinois, il accepte volontiers pour deux causes. Le report de l'opération n'a aucune conséquence ou peu de conséquences sur l'exécution du contrat et il considère ça comme une bonne chance pour se montrer sympathique avec son partenaire, qui lui doit en retour une dette morale. Bien sûr, par la suite, l'autre doit payer cette dette par un autre arrangement quand lui, il en aura besoin. Cela s'appelle, bien sûr, un dévisagement réciproque de l'un par l'autre. On constate d'ailleurs que les trois facteurs se mélangent. Pendant l'exécution du contrat, il est impossible de les démêler l'un de l'autre. Cet incident sur telle ou telle clause du contrat en témoigne de son esprit coopératif, de son amitié pour produire un effet affectif. Il en résulte qu'à la fin du contrat, la confiance mutuelle acquise, alors les deux partenaires, bien sûr, n'ont plus besoin du contrat. Ils ne regardent plus le contrat. La transition y joue un rôle fondamental qui réduit au silence faible trou dans la pensée européenne. Je cite, « La transformation silencieuse, en revanche, ne force pas, ne contrecarre rien, ne se bat pas, mais elle fait son chemin, dira-t-on, infiltre, s'étend, se ramifie, se globalise, fait tache d'huile, elle s'intègre en désintégrant, se laisse assimiler en même temps qu'elle défait à mesure cela même qui l'assimile. C'est aussi pourquoi elle est silencieuse, parce qu'elle ne suscite pas contre elle de résistance. Elle ne fait pas crier, ne suscite aucun rejet, on ne l'entend pas progresser. Cette attitude se répand largement dans nos rapports avec d'autres textes. Alors bien sûr, il y a des situations un peu aliénantes. Qu'est-ce qui conditionne la façon dont les Chinois s'y rapportent? Un autre cas démonstratif, c'est pas un cas bien choisi bien sûr, mais quand même c'est la situation chinoise, c'est le fameux document du comité central, Zhongyang Wenjian, fameux comité, c'est le comité central du parti, par des périodes, alors il y a des politiques à faire appliquer, bon, ils donnent des documents du comité central. Je ne sais pas comment le traduire, si je vais le traduire comme décret, décision ou document, ça ne va pas. C'est plutôt la politique. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un décret ni d'une loi, mais plutôt d'une politique conçue à Pékin. Elle n'est jamais un discours autonome. Elle attend à être assimilée déjà dès le départ. Elle attend à être assimilée par la situation particulière d'une région. Elle accorde d'ailleurs, a priori, un champ de liberté, d'adaptation ou d'arrangement qui permet à la direction locale de soigner son particularisme. C'est pour ça en Chine on insiste tellement sur lianxi shiji, en accord avec la réalité ou bien la circonstance concrète. Comme un texte littéraire d'ambiguïté ou plutôt une argumentation qui se veut floue, qui véhicule une propension qu'on ne peut pas préciser, loin d'être exclu, est soigneusement gardé pour donner une certaine liberté dans son interprétation selon les circonstances différentielles. Seule la propension se manifeste entre les lignes à ceux qui sachent lire. Alors c'est une autre fonction des mandarins, je dirais même un mandarin chinois, lui il doit être exercé dans ce jeu qui consiste à concilier la politique promulguée par le pouvoir central et sa réalité régionale. En chinois, on dit c'est le haut a ses politiques et le bas en aura sa réplique. Interprété d'une façon positive, ça nous donne à voir un compromis, une nécessité qui dicte une attitude à l'égard du texte, qu'il soit contrat ou document central. Dans l'optique de la transformation auto-transformation ou transformation mutuelle en faveur d'une coopération, la réussite n'est plus que la réalisation exacte du contrat. Il faut que son déroulement la prépare et l'améliore, la transforme même, et d'où au lieu de compter sur un contrat prévenant tout, elle est le fruit d'une évolution qu'il faut prendre dès le départ, dirigée vers un résultat qui arrange finalement tout le monde, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Tout arrangement se réalise pendant l'exécution, ni avant, ni après. Et si on peut diviser, par exemple, l'exécution du contrat en trois périodes, c'est avant la signature et l'exécution, et puis après l'accomplissement. Nous savons qu'au sein du processus coopératif ou antagoniste, l'interaction est continue. C'est la manière dont le partenaire se comporte dans telle ou telle situation. On détecte son intention, sa compétence et le degré de sa crédibilité, ou en utilisant un autre terme, chez nous, on parle plutôt entre les partenaires, on essayait d'établir une sorte de fraternité, mais en chinois, c'est jiang yi qi a gou peng you. Est-ce qu'il est bien placé pour la coopération? Accepte-t-il un sacrifice pour l'intérêt de son partenaire? Et si on lui fait un sacrifice, est-il conscient de sa dette morale, etc., etc. On peut aller encore plus loin. La crédibilité est une affaire de la morale, mais aussi une affaire de la situation, créée d'après la propension des circonstances d'une situation où les partenaires jugent favorable le fait de respecter le contrat, et ce serait plus intelligent. La crédibilité ou la confiance ne se lie pas seulement à la morale, elle devra être également le produit de la situation. Alors, parce que c'est dans ce colloque, on a parlé aussi un produit de Monsieur Bernard Kahn, lui qui a fait un film sur les entrepreneurs, sur les entreprises françaises. Là, j'ai trouvé un propos d'une dame. Je vais vous le lire. Je vous donne la même phrase simplement. Elle commande une situation d'une entreprise française en Chine. On vous donne la même phrase simplement, ça ne veut pas dire la même chose. Bon, la loi, elle a sa lettre et puis elle a la façon dont elle est appliquée. Ce sont des choses complètement différentes en fait. Je vais vous donner un exemple parce que ça concerne le GMP. Qu'est-ce que c'est GMP? D'accord. Et vous avez visité Nanchan et c'est terrible parce que je ne crois pas avoir réussi à convaincre mes collègues européens et je n'arrive pas à savoir comment je peux faire. Il nous faut passer les good manufacture, c'est un problème, practice, qui sont l'autorisation pour nous, pour les entrepreneurs français de continuer. Que Nanchang continue à produire, la loi chinoise dit que ça doit être fait pour fin 2005, d'accord, mais les Européens se disent que j'ai encore du temps, je pourrais attendre jusqu'à la fin 2005 pour être en accord. Et bien, c'est pas vrai parce que d'abord, c'est une législation qui existe depuis 5 ans et qu'on a vu depuis le passé, c'est-à-dire que la législation qui existait il y a 5 ans, si vous l'avez passé 6 mois après, vous êtes GPM. Oui, si vous avez attendu un an, on vous a en ajouté une couche, d'accord, vous êtes passé à un deuxième niveau. Et si vous avez attendu 2 ans, on vous en ajoute encore une couche, vous passez au troisième niveau. On est un an et demi maintenant avant la fin, et ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas encore déposé le dossier. Les entrepreneurs français croyaient qu'il suffit de satisfaire l'exigence du projet à la date de l'expiration, et qui est jugée par l'autorité chinoise comme une arrogance. On sait que les entreprises françaises sont performantes, c'est pour ça l'arrogance. Sinon, c'est pas l'arrogance, c'est l'incompétence, n'est-ce pas? Cependant, dès qu'un projet est rédigé et transmis, qu'on préfère que les entreprises concernées s'empressent d'y répondre par des actions concrètes, et c'est de cette façon qu'ils se croient respectés. Les fonctionnaires chinois. un témoignage de la compétence, de la motivation et aussi de la bonne volonté, attendre la date de l'expiration sera interprété comme un mépris ou au moins une non-mise en considération. Madame a souligné que si on retarde jusqu'au dernier jour, on passe au troisième rang, alors selon l'argument de cette autorité, celles qui sont compétentes, motivées et coopératives arrivent toujours les premières. Tout se passe comme si l'évolution était faite pendant, entre et non à l'expiration du délai. Je lis. Le sage chinois est porté à concentrer son attention sur le cours des choses telles qu'il s'y trouve engagé, pour entisseler la cohérence et profiter de leur évolution. Or, cette différence, on pourrait tirer une alternative pour la conduite. Au lieu de construire une forme idéale qu'on projette sur les choses, s'attacher à détecter les facteurs favorables à l'œuvre dans leur configuration, au lieu donc de fixer une butte à son action, se laisser porter par la propension, bref, au lieu d'imposer son plan au monde, s'appuyer sur le potentiel de la situation. Il faut entrer dans une logique de déroulement et de transformation silencieuse. Les deux partenaires se connaissent au fur et à mesure, ils se sympathisent pour se lier d'amitié, et finalement, le contrat devient moins important, qui se modifie avec le temps, et il suffit de laisser l'effet impliqué se développer de lui-même. En fait, en vertu du processus engagé. Et là, je vous raconte une anecdote qui touche, bien sûr, à la traduction. C'était la centrale nucléaire de Taïwan, c'est la centrale nucléaire installée par les Français. Alors, à ce moment-là, le PTG est allé rencontrer le vice-gouverneur de la province du Guangdong. Et votre vice-PTG a dit, c'est Hervé Machinois, il plaisante. Il dit que, oh là là, grâce à nous, cette fois-ci, vous ne souffrez plus la pénurie d'électricité. Et puis le vice-gouverneur chinois a dit que grâce à nous, vous allez gagner plein d'argent. Et puis la dame, c'est une dame qui est ma copine de classe, elle travaille longtemps dans le bureau de la relation humaine, elle connaît bien la situation et elle a traduit à l'inverse. Ça devient, grâce à vous, dit le directeur français, nous avons vendu plus d'électricité. Et puis, le Chinois a dit que grâce à vous, nous souffrons plus de la pénurie d'électricité. Et les deux garçons sont tellement heureux, ils boivent toute la nuit et puis ils sont devenus copains. Et puis, l'affaire aux centrales nucléaires, ça marche très très bien aujourd'hui. Un patron américain a dit presque la même chose à la fin de la signature du contrat. Alors, il dit à ses partenaires chinois en disant tout simplement que « Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème dans notre coopération, même vous ne vous inquiétez pas pour le contrat, parce que je vous aime, parce que j'aime la culture chinoise. » C'est très fort. Tout à l'heure, le PTG, c'est-à-dire Machinois Hervé, a dit la même chose à propos de Taïwan, et il exprime... Dans la même façon, il dit que j'aime la culture chinoise et nous entendons parfaitement. Et tout cela, bien sûr, garantit le succès du contrat. Finalement, en guise de conclusion, alors je dirais que les notions que François Julien a dégagées et a reforgées servent merveilleusement à expliquer tout ce genre d'affaires. Et souvent... C'est-à-dire, sans un outil conceptuel comme ça, alors on est toujours un peu perdu dans les détails. Et avec ce système théorique, j'arrive à montrer vraiment d'une façon plus ou moins cohérente ce qui se passe dans la tête des Chinois. Voilà, merci.
Merci de nous avoir fait entendre.